Bien, bien, nous allons débuter cette cinquième leçon sur la chimie mésoscopique, donc du nanomatériau au mésocristal. Donc dans les précédentes leçons, j'ai plutôt centré mes cours et mon propos sur les modes de construction des nanobriques assez variées, également sur les procédés, comment fabriquer en fait des matériaux. Donc les deux dernières leçons, donc celle d'aujourd'hui et celle de mercredi prochain vont être beaucoup plus fortement centrés sur la chimie mésoscopique. Alors, si l'on regarde d'une façon très très large ce qui se cache sous le nom chimie mésoscopique, eh bien, de façon, je dirais, très très empirique, je classerai en fait les travaux en deux grandes catégories. Tout ce qui concerne les mésocristaux ou supracristaux, en fait, ce sont des systèmes qui, en général, ont des structures de géométrie euclidienne et peuvent diffracter comme un monocristal ou les assembler ou des assemblées équivalentes. Et il y a tout un ensemble, je dirais, de recherches très actuelles également sur les assemblages et agrégats mésoscopiques dans lesquels les degrés d'organisation sont plus ou moins marqués, où une des composantes de l'agrégat peut être un mésocristal. Ces systèmes, en général, diffractent comme un polycristal, mais peuvent également contenir des phases amorphes. Les formes peuvent être euclidiennes, non euclidiennes ou courbes. Donc aujourd'hui, je vais plutôt centrer en fait mon propos et mes exemples sur cette partie-là, donc les mésocristaux et les supracristaux. Et la semaine prochaine, donc je vous parlerai donc de systèmes beaucoup plus complexes d'agrégats mésoscopiques qui sont en direct relation avec les processus de biomédiarisation. Alors donc, ces jeux de construction à partir, je dirais, d'éléments bien définis en forme et en taille, je dirais qu'on est tous habitués à les utiliser, je dirais, dans notre vie quotidienne. Et en particulier, c'est la taille et la forme des objets, des précurseurs utilisés, vous voyez, qui peuvent être très variés, qui gouvernent en fait la structure et la stabilité de l'empilement final. Mais il y a quand même un paramètre qui est important. Très important, en fait, en particulier pour les spécialistes du Lego, c'est qu'il faut avoir, on peut avoir des systèmes avec différentes tailles, mais ce qui est important, c'est d'avoir des distributions de tailles bien centrées. Alors, donc ça, c'était une vue, je dirais, très, très ludique, en fait, de la construction, des différents types de construction. Au passage, vous voyez qu'on peut optimiser des empilements avec des objets qui peuvent avoir des formes très complexes. Et au passage également, la compacité finalement d'un empilement de Smarties avec des formes ellipsoïdales est une compacité qui est déjà la plus élevée, même par rapport au système que vous connaissez, les systèmes les plus compacts, de type hexagonal par exemple. Alors, les chimistes ont déjà depuis pas mal d'années utilisé finalement les analogies entre la forme des molécules et les empilements colloïdaux. Bon, vous savez très bien que c'est un certain nombre de molécules telles que le CO2, le BF3, le méthane ou SF6 sont décrits en fait par des géométries qui sont linéaires, triangulaires, tétraédriques ou octaédriques. Mais on peut en fait, en utilisant finalement comme brique de construction des objets colloïdaux, par exemple dans cette série-là, c'est un travail qui a été fait par mon collègue Étienne Duguay à Bordeaux, où il a utilisé finalement des sphères en fait de silice. Et il a travaillé finalement la construction autour de la sphère du silice avec différents types de sphères de polystyrène pour faire, vous voyez, des systèmes linéaires en forme d'haltères, des triangles, des tétraèdres, des octaèdres. Donc il y a eu toujours, je dirais, un intérêt en fait et une relation chez le chimiste entre la forme en fait de la molécule et la forme des empilements de nanoparticules ou de colloïdes. De la même manière, lorsque l'on regarde par exemple ces nanocolliers d'atomes ou ces structures cubiques qui représentent en fait la structure de l'or, il y a de fortes analogies. Alors donc évidemment, ça, ce sont des structures qui se réalisent à la taille de l'atome, mais il y a de fortes analogies avec des empilements de cristaux colloïdaux. Ce sont des sphères, par exemple, de latex, à nouveau, vous voyez, des empilements en nanocolliers également, des empilements de type structure cubique. Alors, la géométrie des briques, c'est très important, les interactions entre les nanobriques et donc les lois d'empaquetage, en général, forcément, visent à minimiser l'énergie du système qui dépend d'un certain nombre de paramètres. Alors, si je résume un petit peu les grandes lignes de ma présentation, donc mésocristaux, supracristaux, assemblages et agrégats mésoscopiques, donc ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Et l'assemblage de nanobriques préformées et de milieux modèles. En fait, c'est tout un courant qui a démarré, je dirais, dans les années 80-90 Et les chimistes et les psychochimistes, en modifiant la taille, la forme, la polydispersité des nanobriques, la concentration en nanobriques, les états de surface via des charges, via des ligands hydrophiles ou hydrophobes, en jouant énormément sur la nature du solvant, la nature du solvant est très importante, la présence ou non d'un support, au moment de la déposition en fait, du cristal, qui peut se faire sur un support ou par précipitation, et la possibilité d'établir des liens chimiques forts entre nanoparticules. Quand je dis liens chimiques forts, j'inclus des interactions supramoléculaires de type liaison hydrogène ou bien vraiment des liaisons chimiques avec des recouvrements orbitalaires importants. Alors tout ça, ça peut être couplé à des milieux confinés de type gel, cristal liquide, vésicule, micelle, émulsion, à la présence ou non de champs externes ou internes, magnétiques, électriques, optiques, qui permettent finalement d'orienter finalement la formation de ce type de cristaux, de mésocristaux. Donc la semaine prochaine, je traiterai plutôt de cette partie-là, et vous verrez des croissances, je dirais, en milieu gel, en milieu confiné. Alors, pour vous rappeler, en fait, très rapidement, quels sont les différents modes de croissance, c'est un transparent que je vous ai déjà présenté lors de ma leçon, ma première leçon d'introduction. En fait, il y a un processus de croissance classique qui suit en fait, les modèles des années 50 de la mer. En fait, vous devez jouer sur la concentration en précurseur de la phase solide, donc atteindre une certaine sursaturation, et à partir de ce moment-là, vous formez des germes, et dans un deuxième temps, a lieu la croissance. Alors évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir décorréler, l'étape de croissance, de dénucléation de l'étape de croissance, pour obtenir des objets parfaitement calibrés. Donc ça, c'est le cas idéal. Il y a un certain nombre de cas idéaux, mais en général, ce qui se passe, c'est que les objets formés, en fait, les germes n'ont pas forcément tous la même taille. Et puis, vous pouvez, selon la façon dont vous menez en fait, votre processus chimique, avoir en fait, des germes de différentes tailles. Et dans ce cas-là, vous avez un second processus qui se met en route, qui s'appelle le mûrissement d'Oswald, à partir duquel en fait, la distribution de la population de germes a tendance à grossir, simplement parce que la force motrice, c'est de diminuer la surface par finalement dissolution des plus petits germes via en fait, la matière de la solution. Donc ça, c'est ce que j'appelle les modes de nucléation croissance et de cristallisation classique. Alors à côté de cela, si en fait on peut arriver, en jouant sur les paramètres physico-chimiques, à stabiliser finalement temporairement des nanoparticules préformées, stabilisées par de l'électrostatique ou par de la présence en fait, de molécules organiques adsorbées, on peut aller, vous voyez, vers des assemblages qui vont être organisé en forme de cristaux, qu'on va appeler des mésocristaux. Et ces assemblages peuvent également, fusion ou par diminution des surfaces, puisque là, il y a un gain très clairement, si vous collez en fait, ces objets-là, à la fois vous gagnez sur la surface et vous gagnez également au niveau entropique, puisque vous larguez un certain nombre de ligands dans la solution. Mais également, il y a des méthodes d'accès direct sans utiliser des nanoparticules modifiées par des ligands de surface vers des mésocristaux, et en général, les modes de croissance, ce sont généralement des modes d'agrégation et de collage orienté. Alors, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que si vous rentrez très vite en fait, dans des domaines où les sursaturations sont très très importantes, vous allez obtenir des phases qui vont être directement amorphes. Et ces phases amorphes, à nouveau, selon en fait, la physico-chimie de la solution, vont pouvoir se reconstituer, se reconstruire vers la formation soit d'objets, soit de nucléides, soit de mésocristaux. Alors il y a une dernière étape, c'est que très souvent, la nature n'aime pas les grandes surfaces au niveau énergétique, ça vous le savez tous, et ces matériaux-là peuvent être gommés ou lissés simplement parce que la surface, avec des monomères présents dans la solution, on retapisse la surface. Et on peut obtenir à la fin, finalement, un monocristal qui se présente sous cette forme, alors que le processus de cristallisation n'est pas du tout celui-là, mais a pu passer, via des étapes qui sont relativement complexes. Mais les propriétés finales du système vont être dépendantes, finalement, également du mode de construction. Alors, ce qui est important, en fait, de voir, c'est que c'est, vous le sentez bien, on peut obtenir des matériaux plus ou moins complexes, en fonction de la physico-chimie que vous allez utiliser. En particulier, ces systèmes à base de mésocristaux sont énormément développés dans les synthèses de matériaux hybrides que l'on trouve dans le monde biologique, dans les composites minérales également. Alors, il y a toute une communauté avec une chimiste et physico-chimiste qui, essaye donc d'isoler parfaitement et de créer, c'est un peu les premières leçons, des objets très très bien calibrés avec lesquels on va également avoir un très bon contrôle sur la surface, sur la modification de surface, pour ensuite étudier leur mode d'assemblage. Et c'est plutôt de cela dont je vais vous parler. Alors évidemment, la première question que l'on peut se poser, c'est comment reconnaître finalement un mésocristal d'un cristal normal. Alors il y a plusieurs cas de figure. Bon, il y a celui-ci où on observe directement ce genre de structure, donc là, il n'y a pas trop de soucis. Celui-ci, bon, c'est plus ou moins facile à observer, je vais vous montrer des exemples. Et puis il y a ce cas-là, alors là, ce cas-là, ça pose un certain nombre de problèmes. Hein. Et là, comment s'en tire ? Pardon. Comment s'en tire ? Je vais vous montrer d'abord des exemples évidents, des exemples, je dirais, un petit peu moins évidents, et puis des exemples qui vont être, je dirais, à première vue, avec des comportements de monocristal. Alors, les exemples, je dirais, le plus trivial, vous voyez, ça, c'est une précipitation d'un sulfate de barium stabilisé par de l'AOT. Hein. Donc l'AOT a deux rôles. D'une part, c'est un tensioactif. Et également, vous avez un groupe sulfonate qui se met en compétition avec le groupe sulfate. C'est un inhibiteur de croissance. Et vous voyez très clairement la formation de ces tiges, en fait, de ces empilements, finalement, de petites particules de BASO4 qui, donc, sont entourées de ce tensioactif, hein, qui est un inhibiteur de croissance. Et donc, en changeant les conditions et en changeant les concentrations, eh bien, à nouveau, en fait, ces systèmes peuvent réagir pour venir se coller via leur surface. Et à nouveau, je dirais, il y a un gain énergétique. À partir du moment où on colle des surfaces, vous gagnez sur deux aspects. D'une part, vous diminuez la surface et d'autre part, vous avez un gain entropique associé finalement au relargage des ligands en solution. Alors, il y a des systèmes, vous voyez, qui sont assez jolis au niveau de l'esthétique. On voit également qu'il y a une présence, en fait, de systèmes de nanocristaux. Ça, ce sont des mésofleurs d'or, vous voyez. Alors, l'agrandissement à l'échelle de quelques centaines de nanomètres, on voit bien que le système est organisé et composite. Alors, ça, ce sont des pyramides de carbonate de calcium synthétisées en présence de polymères. Et là, il est évident que le système est un assemblage de pyramides. Alors, il y a des systèmes qui sont moins évidents déjà. Ça, c'est un carbonate de calcium qui a été nucléé et en présence d'un autre type de polymère. Donc là, vous voyez, on devine en fait sur la surface que le système n'est pas un simple monocristal. Mais il y a des tas d'autres systèmes, vous voyez, en particulier ceux qui sont associés, je dirais, soit au monde biologique, soit à des composites ioniques en présence de polymères, dans lesquels on voit en fait les espèces, mais le degré de définition est bien, bien moins bon. Alors là, je vais dans les cas les plus pénibles, je dirais. Ça, ce sont des biomorphes, j'en parlerai la semaine prochaine. Vous voyez, bon, donc là, dedans, il y a des mésocristaux. Bon, a priori, ce n'est pas très parlant. BASO4, de la même chose, on a des haltères. Dans ce cristal-là, eh bien, bon, ça ressemble à un superbe mésocristal. Alors, la chance que l'on peut avoir, c'est de faire varier un petit peu les paramètres autour de la synthèse de ce cristal. Et là, finalement, vous voyez, ça c'est un carbonate de calcium, on voit que ce cristal est composite et a été créé par une agrégation d'objets de plus petite taille. Et puis, il y a des cas vraiment plus difficiles, je dirais un peu plus, on les traite, mais un peu plus incurables. Vous voyez, ça, ce sont des super cristaux de bleu de Prusse, et ça, ce sont des azotures de cuivre, alors cristal cubique parfait, octaèdre parfait. Alors voilà, les apparences sont souvent trompeuses, hein. Et ça, c'est un transparent que je vous avais montré la dernière fois. Très souvent, il faut aller regarder, j'irai de plus près, avec des outils, en fait, les outils du chimiste et du physico-chimiste. En particulier, il faut aller chercher des indicateurs qui peuvent être simplement une coupe de l'objet ou une microscopie avec une plus haute résolution. Ça peut être également un suivi réactionnel à plusieurs étapes. Et donc là, on commence à voir se former l'objet et on en déduit que finalement, l'objet est une entité constituée de ces briques. Ou bien, il y a une propriété physique qui n'est pas, je dirais, la propriété physique attendue lorsqu'on compare la taille de l'objet à la propriété donnée. Alors, vous voyez, bon, par exemple, ça, c'est un exemple qui n'a pas été publié, donc je ne vais pas pouvoir trop m'étaler. Ça, c'est un azoture de cuivre dont je vous montrais tout à l'heure. Lorsqu'on va regarder le matériau en coupe, voilà ce qu'on observe. Donc, très clairement, c'est une structure qui est elle-même composite, fait de petits nanocristaux. Ça, c'est le fameux bleu de Prusse. Hein. Donc, au bout de 120 heures, 12 heures, les bleus de Prusse sont des matériaux qui ont été énormément utilisés, pour en particulier des analogues dans des propriétés magnétiques. Et j'ai assisté il y a une dizaine d'années à une superbe bagarre entre les collègues du magnétisme sur des propriétés magnétiques qui n'étaient pas reproductibles. Les gens ne trouvaient pas la même chose, alors que globalement, le cristal était là, la structure était là. Alors quand vous voyez ça, c'est la croissance de ce cristal à différents temps, donc à temps très court, petites nanoparticules qui s'agrègent pour former ces cubes s'agrègent pour former des plus gros cubes, et à la fin, on ne voit plus rien. Mais vous sentez bien que la propriété magnétique de ces objets-là, au finish, elle va être totalement différente. Et là, vous pouvez vous discuter de façon très forte avec vos collègues sur la propriété magnétique de l'objet final, alors que finalement, vous pouvez avoir un objet qui est formé via une voie de cristallisation classique ou un objet qui est formé à partir de ces agrégats. Alors, voici en fait un autre exemple qui est basé sur la formation de manganate à valence mixte. Alors là, la réaction est assez forte. Vous avez un agent qui permet l'oxydoréduction en chauffant, donc tous les procédés, je dirais, polyol, glycol. Le permanganate, eh bien, il faut changer son état d'oxydation pour qu'il condense. Ça, c'était les cours de l'an dernier. Et donc, vous obtenez, vous voyez, de superbes cristaux octaédriques de 150 nanomètres, cristaux marrons, qui sont de très bons photocatalyseurs, très bien distribués, très, très homogènes en taille. A priori, on ne voit pas grand-chose. Donc, on peut faire également de la tomographie 3D, mais à ce niveau-là, on n'est pas fortement avancé. Alors, quand on regarde les propriétés magnétiques, hein, en fonction de la température, le système peut avoir un comportement ferromagnétique ou paramagnétique. Mais par contre, la température de blocage entre les deux états ne correspond qu'à des particules de 10 nanomètres. Donc là, on soulève le lièvre. On se dit, bon, il y a un problème, puisque mes objets sont parfaitement calibrés, ils font 150 nanomètres. Et là, eh bien, le chimiste, ce qu'il fait, c'est un suivi, finalement, des différentes étapes en fonction, en fait, du temps, par exemple. Et vous voyez, en fait, l'évolution de ce... À chaque fois, au niveau rayons X, vous avez la réponse de MnO4, mais il n'empêche que vous avez, en fait, ces agrégations successives pour former le cristal parfait, qui, en fait, est un assemblage, en fait, de petits cristaux. Alors, donc... Je vais donc reprendre maintenant la seconde partie donc de ce cours en vous montrant les assemblages qui sont faits de façon, je dirais, beaucoup plus volontaire, à partir de nanocristaux qui sont formés, sur lesquels on modifie finalement les ligands de surface, et via des effets de solvant, par exemple, on va les entraîner vers un collage et vers certains types de structures. Alors, les interactions qui interviennent dans la formation de ces assemblages mésoscopiques sont, bon, je dirais, c'est assez classique, des interactions attractives du type van der Waals, hydrophobe, solvophobe, des liaisons hydrogène dans certains cas, les forces capillaires, très souvent au moment du séchage, bien entendu, des forces dipolaires et magnétiques, et du côté des interactions répulsives, bon, bah, ça, ce sont également des choses classiques, comme les aspects électrostatiques, stériques, également les forces dipolaires ou magnétiques. Alors, les constructions en fait, de mésocristaux à partir de nanobriques vont forcément dépendre de la forme, de la monodispersité des objets, et on peut dénombrer, je dirais, 5 modes en fait, de construction de ces mésocristaux. Je dirais qu'il y a 2 modes dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais dont je parlerai la fois prochaine. C'est l'alignement en utilisant de l'organique qui est en bleu comme d'un gabarit, comme d'un template. Et donc l'interaction entre le bleu et le jaune peut être liaison supramoléculaire ou des liaisons covalentes. Également, je dirais, des ponts minéraux entre les particules qui peuvent se créer. Ça, c'est une possibilité. Aujourd'hui, je vais plutôt me centrer sur l'alignement via des interactions physiques, les alignements par des contraintes spatiales. Ça, ce sont typiquement des alignements, par exemple, associés à des objets anisotropes. À partir du moment où vous augmentez la fraction volumique d'un objet anisotrope, vous rentrez, en fait, pour des raisons anthropiques, vous avez tendance à former des cristaux liquides et donc vous avez des contraintes dans les empilements. Et également, bon, une méthode, un processus, je dirais, qui a été découvert, je dirais, en 1998, donc quand même plus d'une quarantaine d'années après le fameux modèle de la mer, donc qui est basé sur de l'attachement orienté. Alors l'attachement orienté, je vais vous raconter en quelques transparents à quoi ça correspond. En fait, vous voyez, c'est un assemblage topotactique de particules via leur surface de haute énergie. Et c'est un attachement, c'est un ancrage, en fait, qui est en accord avec les relations d'épitaxie. Donc vous voyez, c'est simplement un petit cartoon. Les particules se testent. Et là, bon, l'assemblage peut avoir lieu. Ça ressemble fortement à des polycondensations entre surfaces. Hein. Alors, ces assemblages peuvent être, vous voyez, linéaires, entre de 0D à 1D, des assemblages de sphères. On peut assembler des plaquettes, des objets plus complexes en trois dimensions ou des objets carrément, avec des formes euclidiennes. Alors, quelques exemples concernant cela. Tout d'abord, la découverte du mécanisme, 98, le modèle de la mer de départ, le modèle qui est toujours enseigné à l'université, c'est 1950. Vous voyez, il y a quand même 48 ans d'écart entre le mécanisme proposé par Penn et Landfield sur une étude sur du TiO2 anatase, donc un oxyde qui a été synthétisé par des méthodes hydrothermales. Et là, on voit très clairement, finalement, que les cristaux s'accrochent les uns des autres. Et lorsqu'on regarde l'amplification de la figure par microscopie électronique, on voit que ce sont les surfaces de plus haute énergie qui sont collées et qu'il y a une relation d'épitaxie. Alors ça marche pour le TiO2. Et puis, il y a entre 60 et 100 études qui ont été faites qui démontrent que ce mécanisme est beaucoup plus général que ce que l'on pense. Un autre exemple, c'est, vous voyez, on passe des oxydes aux chalcogénures, PBSC, qui est synthétisé en présence, vous voyez, de surfactants et de ligands inhibiteurs à des températures de l'ordre de 200 degrés. C'est le travail de Christophe Muret. Et donc, vous voyez, il a très clairement mis en évidence le collage, en fait, de ces particules qui forment donc des dimères, puis des trimères. Et tout ça forme, in fine, vous voyez, des particules qui continuent à s'accrocher les unes les autres en mettant, en fait, des surfaces ou des arêtes en commun. Des particules donc octaédriques qui mettent en commun finalement des surfaces et des arêtes pour former ces chaînes en zigzag de ce type, voyez. Et là, à nouveau sur cette microscopie, on voit très bien que c'est un collage épitaxial. Donc ça fait des formes un petit peu hélicoïdales. Alors le danger, bon ça ce sont les premières étapes de la réaction, mais c'est que ces systèmes-là peuvent être recuits ou vieillis, et à ce moment-là, ben, vous avez simplement un gommage, et quand vous regardez l'objet à un moment donné, si vous ne faites pas les analyses intermédiaires, ben, vous ne voyez pas finalement que le processus de construction est un processus de collage et d'attachement orienté. Alors, un dernier exemple sur l'attachement orienté en trois dimensions. Hein, ce sont des constructions faites à partir du carbonate de calcium, la forme allotropique et la vatérite. Ce sont des systèmes hexagonaux qui, en présence, voyez, d'un polymère tensioactif modifié en fait par des groupements cationiques, donnent ce genre d'empilement, voyez. Donc, à nouveau, bon, les étapes intermédiaires ont montré qu'on part de petits objets pour former des plaquettes avec une certaine distribution pour former finalement des objets, des mésocristaux. Alors donc, maintenant, je voudrais recentrer finalement la seconde partie de mon cours sur la construction d'objets, mais maintenant à partir de nanobriques de façon totalement volontaire. Hein. Donc là, on va partir de nanobriques que le chimiste va synthétiser dans les meilleures conditions possibles, fonctionnaliser les surfaces, essayer de calibrer au mieux les répartitions des tailles, éventuellement donc avoir des constructions simples dans un premier temps, puis des constructions de plus en plus complexes pour aller chercher des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles propriétés. Alors, bien sûr, le but de ce genre d'études, avant tout, c'est de mieux comprendre. Au niveau des propriétés, bon, ben, la semaine prochaine, je pense que le conférencier invité vous montrera certaines propriétés magnétiques qui peuvent être obtenues avec ces assemblages. Mais je dirais que le but premier, c'est de mieux comprendre ces assemblages, de mieux les contrôler. Alors ça, c'est juste une première illustration dans laquelle ces auteurs ont utilisé, vous voyez, simplement des billes de latex de différentes tailles qui sont chargés avec des groupements sulfanate ammonium et qui sont déposés, voyez, sur un support hydrophile avec un espace confiné au niveau macroscopique, c'est simplement un caoutchouc, et ensuite on contrôle le processus d'évaporation. Et donc, en jouant essentiellement sur le rapport des tailles, sur la concentration en particules et sur les charges, ces auteurs sont capables de faire, vous allez le voir, un certain nombre de constructions parfaitement géométrique et parfaitement bien calibré. Hein? voyez, par exemple, ça, ce sont des systèmes qui sont construits à partir de nanoparticules, de silice, de latex, et puis des latex beaucoup plus gros, qui ne sont pas des nanos, vous voyez, c'est de l'ordre d'un micron. Ça, c'est le type d'assemblage que l'on obtient, et ça, c'est le zoom. Vous voyez, on voit bien que les particules ne se positionnent pas de façon aléatoire. On peut très bien positionner, en jouant en fait sur les paramètres dont je viens de vous parler, d'avoir des géométries parfaitement bien définies. Ça, ce sont un autre ensemble de particules avec des tailles différentes, silice, première série de latex, deuxième série de latex. Ça, c'est un troisième exemple. Et vous voyez, on voit très bien que le positionnement en fait, de ces objets obéit finalement à des règles d'empaquetement, à des règles géométriques bien définies. Alors, ça, ce sont des travaux que l'on trouve, je dirais, dans la littérature de la façon la plus commune, c'est-à-dire les travaux avec des latex. Par contre, il y a un ensemble d'équipes qui travaillent plutôt avec des nanocristaux divers, des oxydes, des fluorures ou des chalcogénures. Alors, donc, d'une part, au départ, ce que je voulais vous dire, c'était que la première étape en fait, de synthèse doit être parfaitement contrôlée. Ça, c'est une synthèse de trifluoroacétate de sodium et de terres rares qui peuvent être dopées. Les applications derrière, typiquement, ce sont des propriétés pour l'optique, ce sont des matériaux luminophores. Mais vous voyez le degré de contrôle sur la calibration des objets. Ensuite, ces nanoplaquettes, dont la taille peut être variée, je dirais, de l'ordre de quelques nanomètres à 200 nanomètres, peuvent être, par exemple, on les dissout dans un solvant de type hexane, puisqu'elles sont protégées par des ligands hydrophobes. On dépose finalement une goutte de ce solvant sur un solvant très polaire comme de l'éthylène glycol, dans un moule en téflon. On contrôle le séchage par une couverture, et ensuite on transfère, après séchage, l'assemblage sur une lame de microscope. Alors, vous voyez ce que ça va donner. Ça va donner des choses qui soient assez belles au niveau des pavages. Vous voyez, là, l'échelle, c'est 100 nanomètres, donc des pavages avec des motifs de répétition, avec des formes variables et avec des tailles très variables. On peut également, je dirais, aller vers des assemblages où on va jouer sur la mixité des assemblages, évidemment, avec une particule A et une particule B. Et bien évidemment, il va falloir que la distribution des particules A et B soient très très bien calibrées. Et donc on utilise les mêmes types de procédés. Là, ce que vous voyez, ce sont des assemblages, par exemple, de sulfure de plomb et de métaux, d'oxyde et d'alliage, de sélénium et d'or. Et vous voyez, on calibre parfaitement, finalement, ce type d'assemblage en jouant à la fois sur les concentrations, sur le rapport des tailles et sur les interactions. Alors, ces assemblages sont très intéressants, je dirais, pour deux raisons. Parce que ça va générer finalement des propriétés collectives dans certains cas, dans certains cas de la synergie, dans certains cas des extinctions de propriétés. Et donc, ce sont ces propriétés coopératives qui sont en ce moment étudiées par un certain nombre de groupes, aussi bien en chimie qu'en physique. Alors, ces structures en général sont stabilisées. Dans le cas présent, par des effets stériques, mais également par les charges, parce que ces particules sont chargées. La stabilité de l'édifice final dépend en fait des compacités qui sont atteintes, donc essentiellement des effets entropiques, des interactions de Van der Waals et des interactions dipolaires. Alors vous voyez, ça c'est un exemple, ça c'est le travail de Murray, donc, que j'ai cité plusieurs fois, mais qui a fait de très jolies réalisations. Et vous voyez, en utilisant maintenant des systèmes binaires à nouveau, eh bien, il est capable de reproduire, vous voyez, tout un ensemble de structures qui sont déjà connues pour des alliages ou pour des intermétalliques, avec un degré, vous voyez, de calibration qui est absolument remarquable et exceptionnel. Même, donc, là, c'était essentiellement des sphères, ce que je vous montrais, même avec des objets qui s'écartent finalement de la symétrie sphérique, et ça va être la suite de mon exposé, on obtient, vous voyez, des empaquettements. Là, ce sont des mésocristaux, des mésopavages, obtenus à partir de nanoparticules triangulaires d'un fluorure de lanthane et de sphères d'or. Alors, je vous disais, cette chimie-là, cette physico-chimie-là, peut être faite également avec des objets qui ne sont pas simplement des boules ou des oranges. Quelques exemples très rapidement. Donc ça, ce sont des monocristaux d'oxyde de manganèse qui sont obtenus, vous voyez, par décomposition thermique de l'acétate en présence de complexants, en particulier l'acide oléique, qui va servir de tensioactif. On obtient des octaèdres relativement parfaits et de bonne qualité, avec des arêtes qui varient entre 20 et 30 nanomètres. Alors, lorsque ces systèmes sont transférés en fait dans un milieu plus polaire comme de l'éthanol par exemple, en milieu ultrason, en fait, ils se forment des superstructures 3D de ce type. Et donc, à nouveau, l'objet macroscopique que vous voyez là, à l'échelle de quelques microns, ça a l'air d'être un cristal parfait. Lorsque vous regardez avec une résolution plus importante, voilà ce que vous voyez. C'est parfaitement organisé, mais c'est déjà un ensemble de petites cristallites, hein, en fait, de ces enchaînements d'octaèdres. Alors, enchaîner des octaèdres par des facettes, il y a, je dirais, deux méthodes pour obtenir les compacités maximum, hein, soit en collant donc, les faces 1-1-1, soit vous collez les faces, je dirais, avec un recouvrement total, c'est ce qui se passe dans ce cas-là, soit vous les recollez avec une position en anti de ce type. Et en fonction en fait, de ces modes de collage, vous allez pouvoir obtenir, vous voyez, des enchaînements d'octaèdres diversifiés qui vont entraîner des structures, vous voyez, avec des degrés de compacité qui vont être différents. Et dans le cadre de l'étude précédente, en fonction donc, de la taille du mésocristal final, les systèmes se répartissent dans des structures de type CIN2O3, où vous avez des enchaînements, où chaque octaèdre, finalement, s'enchaîne avec deux voisins en mettant totalement certaines faces en contact, et deux voisins où les faces sont mises en position anti, alors que les très gros mésocristaux, eux, s'enchaînent dans un empilement hexagonal, où en fait chaque octaèdre est entouré de six voisins positionnés avec les faces positionnées de façon anti. Alors, ça, c'était un certain type d'étude. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les études physico-chimiques où les gens, soit ont essayé de comprendre et de modéliser, soit ont essayé de jouer sur un paramètre et de voir l'effet. Alors, cet exemple-là, je le trouve assez parlant. C'est un exemple qui a été développé par le groupe de Xia. Il concerne en fait des nanocristaux, des mésocristaux faits à partir de nanocristaux d'argent. Donc, première étape, faire des objets parfaitement calibrés, vous voyez. Ça, c'est le brut de synthèse recouvert en fait d'un revêtement hydrophile qui est la polyvinylpyrrolidone. Enfin, c'est à nouveau une réaction par réduction thermique d'un sel d'argent. Donc voici les systèmes. Et en fait, cette équipe s'est amusée à fonctionnaliser de façon sélective les faces de ces cubes avec soit un ligand hydrophobe, soit un ligand hydrophile et en changeant la composition des faces. Alors, regardez ce que ça donne. Forcément, le résultat, l'assemblage va dépendre des forces capillaires, puisqu'on va jouer essentiellement au moment du séchage sur l'interface OR, et des interactions hydrophobes. Alors, voyez ce que ça donne. Bon, voilà les quatre figures qui ont été synthétisées. Donc, des faces totalement blanches hydrophiles, une face noire hydrophobe, deux faces noires hydrophobes, et les six faces noires hydrophobes. Je vous rappelle que la redispersion va se faire dans l'eau. Donc, en fait, ce sont les interactions hydrophobes qui vont être le moteur, finalement, pour les réactions de collage. Voilà ce qu'on obtient. Une face, essentiellement des doublets, deux faces, des quadruplets, des triplets, des plans dès qu'on hydrophobe quatre faces, et lorsqu'on hydrophobe les six faces, des systèmes en trois dimensions. Donc ça, c'est un exemple très scolaire, mais qui montre bien, en fait, le rôle, finalement, du contrôle, finalement, de la surface et du ligand présent à la surface. Ça, c'est un autre exemple qui a été développé assez récemment dans le groupe de Marie-Paul Pileni. Ils ont étudié finalement les agrégations, vous voyez, de nanocristaux d'or parfaitement calibrés avec des tailles variables de 4 à 7 nanomètres, mais à chaque fois relativement bien calibrées. Et en particulier, ils ont étudié en fait les effets de solvant sur les méthodes d'agrégation. Hein. Donc ces systèmes-là ont été tout d'abord, protégés par du dodécanthiol, et ensuite, les solvants qui ont été utilisés pour le séchage de ces cristaux, c'est soit le toluène, un solvant, je dirais, hydrophobe, mais relativement un peu polaire, soit l'hexane, un solvant qui va ressembler, je dirais, au niveau des paramètres physico-chimiques, au dodécanthiol. Alors voilà ce qui est obtenu. Pour des cristaux donc, de petite taille, que ce soit en toluène, enfin, les cristaux de petite taille, avec de solvant toluène, vous obtenez, voyez, des films mésostructurés relativement homogène qui se dépose couche après couche. Par contre, lorsque vous avez des nanocristaux d'hexane, que ce soit avec des tailles de 4 ou de 7 nanomètres, vous obtenez dans tous les cas de figure à nouveau des films parfaitement homogènes. Par contre, l'effet de taille, et là je me suis trompé, hein, ce n'est pas 4 nanomètres, c'est 7 nanomètres. L'effet de taille, lorsque vous augmentez la taille et que vous allez vers un solvant qui est moins compatible avec les chaînes qui protègent en fait la nanoparticule, à ce moment-là, vous avez une prénucléation en solution et la formation de cristaux. Donc vous n'avez plus de film homogène. Alors ce travail a été complété, vous voyez, par une modélisation où on voit en fait, en fonction de la taille du cristal et donc en tenant compte forcément des paramètres physico-chimiques de la nanoparticule et du ligand et du solvant, avant évaporation, et vous obtenez dans le cas des petites tailles pour le toluène un système totalement homogène qui après évaporation va donner un film homogène qui va croître couche après couche. Et dans le cas du toluène à 7 nanomètres, eh bien, vous avez déjà une prénucléation qui a lieu en solution et vous allez former forcément des cristaux, des agrégats. Et dans le cas de l'hexane, je dirais, quelle que soit la taille, 4 à 7 nanomètres, vous avez toujours une très bonne compatibilité avec le ligand protecteur de surface et vous avez un système qui reste totalement homogène. Donc en fait, dans cette étude, essentiellement, je dirais, le mode d'agrégation est essentiellement géré par les attractions van der Waals entre les cœurs d'or, l'énergie libre de mélange du ligand thiol et du solvant, ça c'est le paramètre vraiment important de l'étude, de mon point de vue, et les forces de compression élastique des ligands. Et vous avez donc deux cas de figure pour résumer, un cas où vous avez des conditions qui vont être plutôt répulsives en présence d'hexane, et un cas, je dirais, où vous allez avoir des conditions attractives, puisque le toluène ne va pas aimer suffisamment les chaînes, et donc à ce moment-là, les chaînes vont avoir, au niveau énergétique, tendance à interagir directement via les interactions chaîne-chaîne. Alors ça, c'est une autre étude, qui est un petit peu dans le même philosophie, mais cette fois-ci, au lieu de jouer simplement avec des caractères hydrophobes, hydrophiles, comme dans la première étude, ou avec des aspects en jouant avec la nature du solvant, ça c'est une étude qui a été faite par le groupe de Grybowski. Là, dans ce cas-là, les particules, vous voyez, sont bien calibrées autour de 5 nanomètres, mais elles sont fonctionnalisées avec des thiols, puisque ce sont deux métaux, l'argent ou l'or, donc le thiol vient se coller sur la surface, mais du côté externe, on va avoir une charge positive puisqu'on a alkyle d'ammonium ou une charge qui peut être négative dans les conditions, je dirais, de pH utilisé. Ce sont des mélanges eau des vaisseaux à pH 9,7, donc via ce carboxylate. Et donc là, vont commencer on va construire en fait des mésocristaux en augmentant finalement les interactions électrostatiques entre les objets. Et donc, on va essayer de faire, en gros, je dirais, du chlorure de sodium, de faire un sel, mais cette fois-ci, avec des nanoparticules. Et alors, voilà ce qu'il obtient. Dans la plupart des exemples, en fait, il obtient des structures de type blinde. La blinde, je vous rappelle, c'est une structure cubique ZNS. Et donc, dans ce cas-là, en fait, les structures des milieux colloïdaux, des mésocristaux obtenus, sont essentiellement contrôlées par les interactions électrostatiques, et en particulier, les interactions entre premier et second voisins sont totalement déterminantes. Et donc, ça permet également de moduler en fait, les aspects structuraux. Alors, voilà ce qu'il obtient. Vous voyez, des mésocristaux qui sont sous forme d'octaèdres, de superbes octaèdres. Ici, vous avez les mésocristaux d'octaèdres et de tétraèdre, et ici vous avez en fait les répliques de cristaux macroscopiques de sphérélite. Donc vous voyez, le mésocristal est vraiment à une identité très très marquée avec le cristal macroscopique. Ici ce sont des mésocristaux d'octaèdre maclés, cristaux macroscopiques de sphérélite maclés, et ici des mésocristaux sous forme tétraèdre tronqué, et ici vous avez des cristaux macroscopiques de sphérélite à nouveau tronqué. Donc vous avez vraiment une analogie dans cette étude entre des minéraux, je dirais, à l'état naturel et ces assemblages créés, je dirais, via des nanoparticules métalliques dont la surface et la charge de surface est parfaitement contrôlée. Alors, pour aller un petit peu plus loin, maintenant, ça va être la fin de ma présentation, je vais vous montrer que ces assemblages ne se limitent pas, finalement, à des objets entre guillemets assez simples, c'est-à-dire des sphères, des octaèdres, mais que l'on peut faire également des assemblages à partir d'objets qui sont beaucoup plus compliqués. Alors ça, c'est un transparent que je vous avais déjà montré dans un autre cours. C'est la synthèse, voyez, d'octopodes de chalcogénure de cadmium qui sont faits simplement parce qu'on choisit des germes avec des morphologies particulières. Je vous avais dit que la taille du germe était très importante. Et en fonction de la nature des ligandes, on joue sur l'inhibition des faces et sur les modes de croissance pour obtenir, vous voyez, ce sont des systèmes de ce type, en forme donc d'octopode, hein, très très bien calibré. Donc en fait, ces synthèses permettent d'obtenir ces nanoparticules avec une très bonne distribution et très étroite en taille. Vous avez essentiellement de la trioctylphosphine en surface, et ces systèmes sont très fortement solubles dans le chloroforme, qui est un solvant, qui est apolaire, mais qui a quand même, je dirais, un moment non négligeable. Et donc, lorsque vous solubilisez ces systèmes d'octopodes dans le chloroforme et que vous le transférez en milieu de toluène, en quelques heures, en fait, vous voyez, ces objets qui sont très complexes, finalement, vont s'associer pour former ces espèces de chaînes, hein, constituées d'octopodes. Et donc ça, ça se voit très bien en microscopie électronique. Vous voyez bien ici les chaînes. Bon, évidemment, personne n'est parfait, elles ne sont pas toutes de la même longueur, mais vous avez pour des objets qui sont assez complexes, finalement, un degré d'association qui est loin d'être mauvais. Ça, c'est un agrandissement en microscopie. Vous voyez très bien, ces chaînes sont complètement interconnectées. Hein. Alors, on peut, dans l'étude, donc ça c'est le groupe de Mitsa, donc c'est un travail très récemment publié à Nature Materials, et donc on peut changer finalement le solvant, c'est-à-dire que dans un milieu toluène, au bout de quelques heures, on a la présence de ces chaînes-là. Donc maintenant, je vais jouer sur les effets de solvant. Donc je passe mon milieu toluène, je rajoute de l'acétonitril, et ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais avoir des superstructures où les chaînes vont s'encastrer les unes dans les autres pour former des structures tétragonales, à nouveau, d'octopodes. Vous voyez ce que ça donne? Ça, c'est le cliché dans lequel on voit en fait, les chaînes initialement. Ici, vous voyez que vous avez d'autres types d'agrégats là, qui se forment. Il reste des chaînes dans le milieu réactionnel. Et quand vous les regardez, voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a à nouveau ces agrégats de chaînes. Et quand vous les regardez avec de la haute résolution, voilà ce que ça donne. Vous avez finalement cette structure totalement interpénétrée, très très bien organisée, malgré que l'objet de départ est relativement complexe. Hein? Alors, pour aller un petit peu plus loin, ben, ces systèmes, au moins pour s'amuser, il faut essayer de les stabiliser. Et c'est ce qu'ont fait en fait les auteurs de cet article. Ils ont dans un premier temps échangé le cadmium de ces structures par du cuivre. Ça, c'était la leçon 2, où je vous ai dit que dans les chalcogénures, les métaux s'échangeaient, mais avec une facilité incroyable. Donc, échanger le chalcogénure par du cuivre, première étape. Ensuite, traiter en fait, le système par un plasma oxygène de telle façon à créer une structure soudée. C'est-à-dire qu'on passe à la forme cuivre et en surface, on va oxyder le cuivre pour créer, vous voyez, des domaines d'oxyde de cuivre qui soudent finalement le mésocristal. Ça, c'est pour pouvoir le transférer et l'utiliser de façon plus utile. Donc, vous voyez, ça, c'est avant la réaction, je dirais, de stabilisation, et ça, c'est après la réaction de stabilisation. Vous gardez globalement la même structure avec des interfaces qui sont collées via la réaction d'oxydation. Alors, comme on est parti à discuter un peu des assemblages un petit peu particuliers et bizarres, je ne pouvais pas simplement finir sur l'octopode, mais il fallait que je vous parle également des étoiles de mer, et en particulier, dans cet exemple-là, à nouveau, c'est un chalcogénure PBS qui est synthétisé par décomposition d'un acétate de plomb en présence de deux tensioactifs. Et à nouveau, bon, bah, ce système-là peut être, la croissance peut être contrôlée de telle façon à obtenir des étoiles, simplement parce qu'on va jouer sur la polarité des différentes faces, 1-1-1 ou 1-0-0, du système cubique de la blinde. Et très souvent, la plupart des jolis exemples au niveau de l'esthétique sont souvent, c'est ce que je vous disais dans les autres leçons, basés sur des systèmes à base de chalcogénure, parce qu'il y a des faces qui sont avec des polarités très très différentes, et on arrive à très bien à contrôler, les protections de certaines faces par rapport à d'autres. C'est beaucoup plus difficile, très souvent, dans le cas des oxydes. Alors, donc, on obtient ces étoiles de mer, hein, de ce type, vous voyez, 50 nanomètres, c'est l'échelle, relativement monodisperse en taille, avec en fait un jeu de deux tensioactifs. Un tensioactif, il va venir se coller la partie sulfate sur la partie, chalcogénure, en particulier avec une interaction sur les atomes de plomb de surface, et en fait une espèce de double couche qui va pouvoir se former avec l'ammonium qui va se trouver dans la position inverse, donc vers l'eau. Donc ce sont des systèmes qui sont totalement solubles dans l'eau. Hein? Et donc, ce sont des surfactants donc, qui vont être chargés, ce que je vous disais, solubles dans l'eau. Alors, comment peut-on les assembler? eh bien, à nouveau, simplement par évaporation. Hein. Par évaporation, on va essayer soit par trempage, en formant un film, pour faire des assemblages bidimensionnels, ou en séchant directement une goutte sur un substrat, pour obtenir des assemblages 3D. Et vous voyez, ces structures en étoile, qui sont compliquées, qui sont complexes, qui n'ont pas les formes les plus simples, je dirais, pour l'assemblage, s'assemblent dans des réseaux 2D parfaitement bien définis. Ça, c'est les assemblages en 3D. Alors, les mêmes auteurs, là, c'est un travail très récent qui a été publié à SCS Nano, ont essayé d'utiliser finalement ces étoiles à nouveau comme une brique de construction dans un mélange binaire. Alors, voyez ce qu'ils ont fait. Alors là, ils ont utilisé des billes de latex de différentes tailles et ils ont déposé finalement ces étoiles. Et vous voyez qu'à nouveau, on arrive à décorer, à créer vraiment des assemblages mixtes de mésocristaux constitués de ces étoiles de chalcogénure. Hein, donc là, le latex a été enlevé, je dirais, par lavage. Donc vous voyez, en fonction de la concentration, ça c'est avec du latex. Également, le latex peut servir à faire une réplique de silice pour obtenir, vous voyez, des silices hexagonales de ce type dans lesquels vous allez parfaitement, en fonction de la taille de la bille de latex, calibrer la taille du puits en fait, qui va permettre à l'étoile de venir se positionner. Et c'est ce que vous voyez dans la diapositive du bas, dans la microscopie du bas, vous voyez, une étoile est parfaitement positionnée dans chaque trou du SiO2, puisque le trou a été calibré en fonction de la taille de l'étoile. Bon, c'est simplement de l'esthétique, hein, il n'y a aucun intérêt au niveau de l'application, mais c'est pour vous montrer un peu le degré de contrôle que l'on peut avoir dans la construction de ces objets. Alors, évidemment, lorsqu'on veut fabriquer des matériaux avec une vue, je dirais, un peu plus vers la propriété de l'application, eh bien, on peut s'aider de champs externes pour faciliter, finalement, l'homogénéité et l'alignement, etc. Et donc, ça, c'est un travail qui a été publié récemment, à nouveau, vous voyez, 2010, où, en fait, en utilisant des systèmes cœur-coquille à base d'oxyde de fer et de silice, qui n'ont pas, vous voyez, des anisotropies très marquées. Donc, ça veut dire que le système de lui-même ne va pas former un cristal liquide. Donc, il faut le forcer à s'organiser, à s'orienter. Eh bien, en couplant, finalement, une méthode de dépôt par trempage-retrait et un champ magnétique, eh bien, on obtient, vous voyez, des assemblages très, très réguliers et homogènes sur des surfaces relativement grandes. Donc, de mon point de vue, les mésocristaux, c'est un domaine qui est très riche et très intéressant, où il y a de la belle physique à faire. Mais si on veut vraiment développer des systèmes un peu plus vers des propriétés, on va avoir tendance quand même à utiliser finalement soit des modes de dépôt classiques, soit de les coupler finalement, soit avec des champs magnétiques, soit avec des champs électriques. Vous voyez, ça c'est ce que ça donne, les assemblages qui sont obtenus pour ces systèmes qui sont relativement, au niveau de l'esthétique, relativement remarquables. Alors, j'ai fini la leçon, et donc je vais vous montrer simplement deux exemples pour vous montrer que le monde des mésocristaux, ce n'est pas si simple que tout ce que je vous ai montré. Vous voyez, ça c'est un agrégat d'aiguilles, et là vous reconnaissez en fait des géométries et des maclages tout à fait particuliers, et ce sont des nano-aiguilles de silice. En fait, ce n'est pas exactement de la silice, c'est un composé de silice dopé par du phosphore et de l'azote qui est obtenu par des voies thermiques. Mais à nouveau, vous retrouvez un assemblage et une cristallisation. C'est un mésocristal beaucoup plus complexe. Donc, vous pouvez obtenir également, vous voyez, ce sont les nanofibres de silice, hein, qui ont été analysées par microscope électronique. Vous avez un enchevêtrement, mais globalement, la forme finale de l'objet, ça ressemble à un cristal de géométrie donnée avec un certain nombre de macles. Alors, la semaine prochaine, eh ben, on regardera des systèmes encore plus compliqués, mais à mon avis beaucoup plus excitants, parce que c'est beaucoup plus proche, même si ce ne sont pas des biobinéraux, mais ce sont des systèmes qui vont être proches des processus de biominéralisation. Vous voyez, ce sont des formes très complexes qui sont obtenues sans organique du tout, par exemple. Hein? Donc ça, on verra ça la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous présenter le conférencier qui va nous parler donc aujourd'hui de l'exploration du nanomonde en trois dimensions. Vous voyez bien que cette branche de la science qui concerne les agrégats, les mésocristaux, le développement, quand vous regardez les années, elle a été très dépendante du développement des outils de caractérisation. Il est clair que les mésocristaux, ça a toujours existé. Les gens ont fait comme M. Jourdain, ils en ont fait sans le savoir, mais que peu à peu, les gens ont visualisé, mieux compris, contrôlé les paramètres physico-chimiques qui permettent ces assemblages. Et en particulier, il faut voir. Et voir, c'est très souvent de la microscopie électronique. Donc le conférencier d'aujourd'hui, c'est donc Ovidiu Orsen, donc, qui est maître de conférence à l'IPCMS de Strasbourg. Donc sa spécialité, c'est l'étude des nanomatériaux et des nanostructures par microscopie électronique. Donc il a eu un doctorat en 2001, il a eu l'HDR en 2012. Donc ses activités de recherche sont centrées autour de l'outil de microscopie électronique, mais avec des interfaces très nombreuses, avec justement des sujets en relation avec les nanotechnologies très très actuelles. Alors donc il a une 80 publications, un certain nombre de conférences invitées. C'est un conférencier, je crois que c'est le plus jeune des conférenciers que nous avons fait venir jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je vais arrêter là le cours d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention.